Bon, en attendant peut-être d'avoir un PowerPoint, je vais déjà vous raconter un petit peu ce sur quoi je vais intervenir. Alors j'ai intitulé cette communication « On a pris la parole comme on a pris la Bastille ». Propos de Michel de Certeau et clin d'œil bien sûr à la Révolution et à cette fameuse trilogie républicaine, liberté, égalité, fraternité, sur laquelle nous nous interrogeons ce soir. En réalité, quand Michel de Certeau dit « on a pris la parole comme on a pris la Bastille », il fait référence aux événements de mai 68, où toute une nouvelle génération, toute une génération de jeunes, a effectivement pris la parole et s'est exprimée. Or, dans ces jeunes, on sait aujourd'hui très bien que si certains ont pris la parole, c'était surtout les hommes, que les femmes ont été silenciées, exactement comme elles l'ont été au moment de la Révolution, invisibilisées, silenciées, bien qu'elles aient, dans l'un et l'autre cas, massivement participé aux manifestations. On a donc là un mouvement qui est récurrent, et qui veut que les femmes participent, elles sont actives, mais on ne les entend pas et on ne les voit plus ultérieurement. Est-ce qu'on a un petit PowerPoint ? Le clavier est bloqué. Bon, alors là, c'est moi qui suis bien emmerdée. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de faire sans. Je vous avais préparé de jolies images. Alors, le but de cette intervention, sans images, était en fait de faire un lien entre la difficile prise de parole des femmes et leur exclusion de la citoyenneté. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que les femmes sont silenciées depuis fort longtemps et que ce refus de leur permettre d'accéder à la parole publique constitue bien évidemment une forte entrave à leur exercice de la pleine citoyenneté. Qui ne parle pas, qui ne dit pas « je » est parlé par les autres, il devient le « il » ou plus exactement en l'occurrence le « elle » du discours des autres, cette non-personne dont parle Benveniste. Et ça a été le destin des femmes depuis quelques millénaires. Non, toujours rien. Ça va venir peut-être. Bon, écoutez, je continue, j'essaye de continuer en tout cas, et je voudrais commencer, alors vous allez me dire, voilà, les femmes sont silenciées. Et pourtant, dans les stéréotypes classiques, que dit-on des femmes ? Qu'elles sont bavardes. Eh bien, je voudrais justement tordre le cou à ce lieu commun, à ce stéréotype qui voudrait que les femmes soient bavardes. Il existe en effet toute une tradition, des contes, des chansons populaires, etc., qui font des femmes d'intarissables moulins à parole face à des hommes dont la parole serait retenue, contenue, maîtrisée. Or, c'est une toute autre histoire que nous racontent les travaux scientifiques. Tous les travaux scientifiques nous montrent en effet que dans un contexte de mixité, que ce soit dans le cadre de l'espace public ou que ce soit dans le cadre de l'espace privé, ce sont les hommes qui parlent plus que les femmes. Alors, s'interrogeant sur ce paradoxe, la chercheuse Corinne Monnet avance l'hypothèse suivante. La parole des femmes n'est pas évaluée à l'aune de celle des hommes, mais elle est évaluée à l'aune du silence qu'on considère comme étant l'état normal des femmes. C'est ce même présupposé qui veut qu'une femme qui parle autant qu'un homme est perçue comme étant plus bavarde qu'un homme, un double standard qui veut qu'un même comportement est perçu, est apprécié différemment selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Donc il convient de tordre le cou à ce lieu commun de la femme bavarde. Donc la parole et son corollaire, le silence, jouent un rôle central dans la définition des rapports de sexe. Alors vous avez peut-être entendu parler des termes « man-interrupting », « mansplaining ».« Man-interrupting », c'est être, quand on est une femme, être interrompu par un homme parce qu'on est une femme. Et « mansplaining », c'est en gros se faire expliquer la vie par un homme, y compris sur des problématiques dont on est soi-même spécialiste ou qui nous concernent au premier chef. Ces deux néologismes anglo-saxons, qui plus est, révèlent la prise de conscience actuelle du rôle que joue la parole dans la perception des rapports de domination et des rapports de force. En effet, ces dernières années ont vu la publication de plusieurs études sur la circulation de la parole dans l'espace public et notamment dans l'espace politique. Circulation de la parole dans l'espace politique, c'est mon domaine de recherche privilégié et je vais donc me permettre d'en parler un petit peu là-dessus. Alors, parmi ces études qui se sont développées ces derniers temps, il y en a une qui a attiré particulièrement mon attention. Le chercheur Théo Delamazure a fait un travail sur l'Assemblée nationale, sur le Parlement, ce lieu où l'on parle, et notamment sur la 16e législature, c'est-à-dire la période qui s'étend de juin 2022 à la dissolution de juin 2024. Et il a travaillé sur les prises de parole durant cette 16e législature et ce qu'elles révèlent de différence entre les hommes et les femmes. Je cite son étude. Il nous montre, premièrement, que les femmes sont interrompues deux fois plus que les hommes. Deuxièmement, que parmi les 10 députés ayant interrompu le plus leurs collègues, il n'y a que des hommes. Enfin, il note que ces derniers parlent 40% de plus que les femmes, toutes choses étant égales par ailleurs, évidemment. Alors, ajoutons que les femmes à l'Assemblée nationale sont plus que les hommes victimes d'injures sexistes. Vous savez, ces caquettements de poules, ou alors ces bruits d'ailes de faisane, ou encore ces bruits de basse-cour, enfin toute une espèce de bestiaire qui est convoquée lorsqu'elles prennent la parole. Donc, elles sont plus que les hommes victimes d'injures sexistes, d'une part. Et comme le note la chercheuse Claire Auger, ce n'est pas la présence des femmes à l'Assemblée nationale qui suscitent l'injure, mais c'est bien leur prise de parole, comme si, ce faisant, elles s'octroyaient un droit ou elles enfreignaient un privilège qu'elles n'avaient pas le droit de faire. Donc on a là quelque chose qui est quand même fortement ancré dans la perception et dans la conception des choses. Bon, vous l'avez compris, les espaces de parole sont l'expression des rapports de pouvoir, sédimentés depuis des siècles, voire des millénaires. Toujours pas de PowerPoint ? Waouh ! Grandiose ! Alors, eh bien, parfait ! Donc, je vous propose un petit zoom arrière qui va nous amener à l'Antiquité grecque et latine, donc la longue histoire du silence des femmes. Donc cette longue histoire, elle est sédimentée depuis fort longtemps. Vous vous rappelez peut-être dans Homère, Ulysse vogue au loin, Pénélope brode, rebrode et défait sa tapisserie, et avec Pénélope vit le fils d'Ulysse et de Pénélope, à savoir Télémaque. Et Télémaque décrète un jour à sa mère « Il m'appartient à moi de discourir dans cette maison, à moi qui suis le chef de cette maisonnée. » Et c'est ainsi, note l'antiquisante Mary Bird, que Télémaque a probablement contribué à clouer le bec des femmes pour un certain nombre de décennies, de siècles, voire de millénaires. Aristophane, dans l'Assemblée des femmes, dit d'elle qu'elles jacassent, qu'elles caquettent, qu'elles aboient et qu'elles sont incapables de trouver le bon registre de langage. Dans les Métamorphoses d'Ovide, c'est un festival. Io, et transformée en vache et réduite à formuler de pitoyables beuglements. La nymphe Écho ne peut que répéter les paroles des autres. Quant à Philomèle, la pauvre Philomèle, qui est victime d'un viol, elle se voit arracher la langue par son violeur pour éviter qu'il ne la dénonce. Donc, on le voit, un grand nombre de textes de l'Antiquité confinent les femmes au silence. On peut passer au point suivant. Les religions leur emboîtent le pas. Alors, je n'ai pas développé longuement ce point-là, mais on se rappelle que dans 1 Corinthiens 14, il est dit, Eliane est d'accord avec moi, que les femmes se taisent dans les assemblées. Silenciation, une fois de plus. La bourgeoisie, point suivant, les codes de la bienséance bourgeoise continuent d'enfoncer le sillon. Peut-être avez-vous lu ce que parlait veut dire de Bourdieu, où il nous montre bien qu'une femme qui sait se tenir ne prend pas la parole en public. Non seulement elle ne prend pas la parole en public, mais elle ne rit pas en public, elle ne raconte pas d'histoire, elle ne parle pas fort. Non, c'est le silence qui est intimé aux femmes. Briser ce silence reviendrait à signer son appartenance de classe, une classe éminemment populaire. L'éducation, l'école poursuivent dans cette même logique et on est très surpris de voir qu'aujourd'hui encore, les travaux des sociologues de l'éducation, je pense notamment à Marie Durubella Bécaque, montrent que dans les classes, les filles sont enjointes à se taire et les garçons à prendre la parole. Et vous vous rappelez peut-être que lors du Covid en 2020, dans les concours d'entrée aux grandes écoles, on a supprimé les épreuves orales dans certains de ces concours. Et quelle n'a pas été ma surprise de voir que dans le concours de l'école normale supérieure, section lettres, l'oral ayant été supprimé, la proportion de filles est passée de 54 à 67%. Évite-leur de prendre la parole et elles explosent littéralement dans les concours. Est-ce que j'ai encore un petit point ? Donc, la parole des femmes, on l'a bien compris, a longtemps été une parole d'effraction, pour reprendre la belle formule de Michel Perrault. Alors, si les femmes ont été silenciées, en revanche, la parole a très tôt été identifiée au masculin. Vir bonus dicendi peritus, dit Caton l'Ancien. Un foutu misogyne par ailleurs, mais enfin, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Et vous observerez là encore, et d'autres que moi ont fait le rapport, que Caton ne dit pas « homo bonus dicendi peritus », l'homme de bien est habile à parler, mais il dit bien « vir bonus dicendi peritus », c'est le mal. C'est le mal qui est associé à la capacité à s'exprimer. Les modèles de l'art oratoire sont tous des hommes. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme grands orateurs ? Cicéron, Quintilien, Démosthène, etc., etc. Donc, on peut en citer des quantités. Les modèles de l'art oratoire sont des hommes. Deuxième point, les lieux de l'éloquence sont des lieux qui sont exclusivement réservés aux hommes. Le barreau dans les tribunaux, la chaire dans les églises, les camps militaires et même l'université qui ne s'est ouverte que très récemment aux femmes. Et dans, point suivant, dans le top 10 des classements internet que l'on trouve qualifiant des soi-disant grands orateurs, je vous enjoins à faire l'expérience, vous verrez que là encore, seuls des hommes sont cités. Ce sont des Jaurès, Mirabeau, Victor Hugo et plus proche de nous, Obama ou Steve Jobs, pas une femme, pas même Dolores Ibarruri, pourtant connue pour ses compétences oratoires, ou encore Alexandra Kollontai, pourtant surnommée Jaurès en jupon, les talons se devant bien sûr d'être une femme. Donc on voit silenciation des femmes, l'art oratoire, l'éloquence est identifié au masculin et on peut passer au point suivant. Alors, petit zoom sur l'époque qui nous intéresse particulièrement ce soir, qui est au fondement de notre modernité politique, à savoir la Révolution. Qu'est-ce qui se passe à la Révolution ? Est-ce qu'elle va inverser la tendance ? Le suspense est insoutenable, enfin pas tant que ça, puisqu'on a déjà en partie répondu à cette question, et on sait bien que les révolutionnaires n'étaient pas des féministes, et qu'ils n'ont pas souhaité laisser la parole aux femmes plus que cela. À la Révolution se cristallise une espèce de double paradigme qui vise à opposer d'un côté la conversation de salon et de l'autre l'éloquence révolutionnaire. Alors, on oppose un certain nombre de caractéristiques, donc on a l'espace privé d'un côté, l'espace public de l'autre, une parole circulante d'un côté, une parole surplombante de l'autre, la mixité d'un côté et la virilité ou la masculinité de l'autre, donc toute une série d'oppositions qui vise à différencier ces deux espaces, l'espace du salon étant bien évidemment totalement dévalorisé durant la Révolution, mais parce qu'il est identifié à l'aristocratie et parce qu'il est identifié aux femmes. Et donc les oratrices, les femmes sont emportées dans ce mouvement de dépréciation qui se cristallise encore un petit peu plus à la Révolution. On peut passer au point suivant. Les mots pour le dire ou pour la dire sont confisqués par les hommes, les mots du discours et du pouvoir. On parle d'un ténor du barreau. Quel est le féminin ténor du barreau? Je ne sais pas, une soprane du barreau? Pas sûr. La tribune a du mal à concurrencer le tribun. La gouvernante n'a rien à voir avec un gouvernant. Je n'ose évoquer la femme publique qui est évidemment bien loin de l'homme public. Donc on le voit, notre vocabulaire est structuré sur la dépréciation des femmes en lien avec le pouvoir ou avec la prise de parole et à l'exaltation des hommes. Et on peut terminer sur cette injonction qui consisterait à vouloir vaincre la malédiction. Alors, vous avez peut-être à l'esprit les prestations d'Edith Cresson, Ségolène Royal, Valérie Pécresse ou Elisabeth Borne, qui ont été avec constance moquées pour leur prise de parole. Moquées pour leur prise de parole, mais aussi moquées pour leur voix, d'ailleurs. Une voix qui était trop aiguë, voire hystérique, ou une voix qu'on n'entendait pas. Bref, toujours trop ou trop peu, comme si elle-même était toujours de trop dans cet espace politique et spécifiquement dans cet espace de parole qui ne leur est pas destiné. Sujet ou objet du discours, bon, je l'ai dit en introduction, beaucoup de ces femmes sont rentrées dans le silence, et je pense notamment à l'espace numérique où beaucoup de femmes ont pris la parole et se sont trouvées harcelées au point de fermer leur compte et de revenir au silence qui était le leur, cédant ainsi à leur harceleur. Or, les enjeux de citoyenneté liés à la prise de parole n'échappent à personne et il est indispensable que tous et toutes, hommes, femmes, de toutes origines sociales ou culturelles, puissent accéder à cet espace de parole. Donc, quelles que soient les difficultés, il faut parler quand même pour mettre fin à la malédiction de la parole des femmes et pour que s'accomplisse la promesse d'égalité de la devise républicaine. Et donc, je suggère effectivement de parler de liberté, d'égalité et d'adelphité. Merci.